Pour notre chronique mensuelle, nous retrouvons Nahiri Boudet, sexothérapeute à Sisteron et Gap, spécialisée en sexologie et thérapeute de couple. Alors, la pratique de la professionnelle de la santé que vous êtes repose sur un échange verbal au cours duquel les problématiques sexuelles liées à des troubles psychologiques, émotionnels ou biologiques sont analysées. Pour cette nouvelle chronique, Nahiri, vous avez choisi de nous parler des TCA. Alors peut-être pour commencer, les TCA, qu'est-ce que c'est ?
Bien sûr, les TCA, ce sont les troubles du comportement alimentaire. Et c'est une manière assez large de parler des différents problèmes rencontrés par les personnes qui ont des difficultés avec l'alimentation, avec l'image de soi, l'image du corps. Donc on pense évidemment à la maladie la plus connue, l'anorexie. Mais ce dont moi je vais vous parler aujourd'hui majoritairement, c'est de boulimie et d'hyperphagie, puisque ce sont les comportements alimentaires qui causent le plus de problèmes dans les couples avec lesquels je travaille. Il y a bien sûr certaines personnes qui rencontrent des problèmes d'anorexie ou qui en ont rencontré, donc on va en parler aussi. Mais ce que j'observe le plus, c'est combien la boulimie et l'hyperphagie, avec ce que ça peut comporter de prise de poids, par exemple, peut faire dans les relations. Donc, de quoi parlons-nous exactement quand je parle de boulimie et d'hyperphagie ? Donc, les personnes qui sont boulimiques vont avoir tendance à avoir une consommation très importante de nourriture dans un temps limité. Donc, il va y avoir une absorption massive de matière régulièrement choisie pour sa teneur en gras et en sucre. Et ce qui est particulier dans la boulimie, c'est que les personnes vont avoir un comportement ensuite d'expulsion, soit par le vomissement. Et là, le petit ennui, ça peut être effectivement le fait que ça va abîmer la trachée avec le vomi chaud qui remonte. Ça fait du bruit, ça salit les toilettes, ça alerte aussi le compagnon ou la compagne qui n'est pas loin. Donc c'est là où ça peut poser des problèmes au niveau du comportement d'expulsion. Mais aussi, comme je vous disais, l'absorption massive de nourriture, ben, il en faut donc de la nourriture. Donc il faut l'acheter, il faut la cacher. Et donc là aussi, ça peut être difficile de dissimuler tout cela. Donc il y a des comportements compensatoires pour éviter la prise de poids importante. Puisque forcément, on peut se l'imaginer, qui dit absorption massive de nourriture dit aussi absorption massive de calories et donc prise de poids. Donc ces personnes vont essayer par tout un tas de stratégies, le vomissement, on en a parlé, mais aussi le sport intensif ou la prise de laxatifs, de limiter, voire d'empêcher la prise de poids. Les personnes hyperphages, elles, ne vont pas recourir à ces comportements compensatoires. C'est pour cela qu'on peut retrouver un certain nombre de personnes qui souffrent d'obésité, qui sont également hyperphages. Alors, là où ça devient intéressant, et le lien avec la sexualité, c'est que de nombreuses personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire sont aussi souvent des personnes qui ont été abusées dans l'enfance, qui ont été malmenées, qui ont été violentées et qui ont des troubles affectifs. En tout cas, beaucoup de personnes ont ce qu'on appelle en psychologie un trouble de la personnalité borderline, autrement appelé état limite, avec majoritairement des troubles de l'attachement.
Quand vous dites trouble de l'attachement, pour développer un tout petit peu ?
Eh bien, pour parler plus simplement, ce sont des personnes qui vont avoir tendance à être dans ce qu'on appelle la dépendance affective. Je ne suis pas sûre qu'il y ait une validité scientifique à utiliser ce terme, mais au moins tout le monde comprendra de quoi je parle, c'est-à-dire ce besoin incroyable d'être reconnu et valorisé par l'autre. Alors qu'on fasse bien la différence, nous sommes tous humains, nous avons tous besoin de reconnaissance. C'est pour ça qu'un philosophe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Axel Honneth, a écrit un livre qui s'appelle « La lutte pour la reconnaissance ». Donc, il le présente comme une donnée essentielle de l'humanité. Nous luttons tous pour être reconnus et valorisés. Néanmoins, la question qui se pose ensuite, c'est « qu'est-ce que je suis prêt à faire pour l'être ?» reconnu. Et parfois, certaines personnes sont prêtes à aller loin, parfois à ne pas se respecter. Pas qu'il y ait un jugement de valeur de ma part, hein, mais ce sont elles qui le disent parce qu'elles en souffrent et qu'elles sentent bien qu'elles ont dépassé leurs limites pour pouvoir être acceptées par l'autre. Donc, ce qui conduit aussi à des techniques de sabotage, parfois parce que les personnes s'en veulent, d'avoir des comportements de ce type, d'être à la recherche permanente de personnes qui pourraient les valoriser afin de combattre le vide. Le vide, donc la solitude, la peur de l'échec, toutes ces choses-là qui sont parfois insupportables et difficiles à surmonter seules. Donc les personnes vont essayer de chercher dans la nourriture, ça peut être dans tout un tas d'autres types de substances qui ont leur petit succès. Mais en tout cas, puisqu'on parle de nourriture aujourd'hui, la nourriture va venir remplir et donc éviter à la personne de se confronter à ce vide massif.
C'est donc une façon d'aller vers la forme de plaisir en même temps pour combler ce vide, comme vous dites. Mais ensuite, il y a cette volonté de se faire souffrir, puisqu'il va falloir expulser cette nourriture qu'on a ingérée et se faire mal aussi et en souffrir. Il y a un paradoxe.
Je ne sais pas trop si ce qui est attendu, c'est tant que ça le plaisir, mais en tout cas au moins le soulagement. Et effectivement, les personnes vont pouvoir ressentir du plaisir à se sentir momentanément soulagées. Malheureusement, là où le bât blesse, c'est que le soulagement ne dure pas longtemps. Et plus les personnes vont connaître cette addiction depuis longtemps, malheureusement, moins efficace c'est aussi. Je pense à une personne avec laquelle je travaille qui me disait c'est les deux premières bouchées du Twix qui me plaisent. Après, je mange les 10 autres parce que il faut bien finir la boîte ou parce que je les ai achetées et donc je n'ai pas envie de les laisser traîner parce que j'ai peur que mon compagnon ou les enfants tombent dessus, parce que je ne sais pas quoi faire d'autre, parce que foutu pour foutu, autant tous les manger, parce que j'ai décidé de me détruire. Et tant qu'à faire, il y a les Twix et puis les Kinder Bueno et puis le McDo qui m'attend après. Donc effectivement, il y a une logique d'auto-sabotage, mais qui n'est pas forcément perçue comme telle. Immédiatement. Certaines personnes vont chercher le soulagement et l'auto-sabotage va être sous-jacent et plutôt inconscient. D'autres personnes, au contraire, vont plutôt vouloir chercher dès le départ le fait de se détruire. Justement, on parlait du fait que de nombreuses personnes qui ont des TCA ou qui souffrent d'obésité ont été abusées. C'est pour cela que certaines personnes que j'ai pu recevoir à mon cabinet ont parlé du fait que ces kilos en trop, c'était une manière aussi de se protéger du regard des autres, et particulièrement du regard des hommes, puisque je pense à des femmes.
Le fait de s'emprisonner dans cette solitude en même temps aussi, ça correspond à quoi? Parce qu'il y a le désir de manger, de combler ce vide, et en même temps de se sentir un peu prisonnier aussi de soi-même, et s'isoler des autres en fait, et avoir une vie quand même relativement secrète.
C'est très juste ce que vous dites parce qu'effectivement ces comportements avec la nourriture ont rarement lieu devant d'autres personnes. Souvent la culpabilité et la honte sont associées à ces prises compulsives. Oui, bien sûr, et c'est là où c'est intéressant, c'est que par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, il y a un véritable paradoxe, c'est-à-dire que les personnes craignent en même temps la solitude et l'abandon des autres et en même temps ces conduites-là les conduisent du coup à s'isoler. Donc c'est pour ça qu'on peut parler d'auto-sabotage. C'est important de spécifier que ces personnes-là, elles ne sont pas débilous, elles ne sont pas à côté de la plaque. Il y a des personnes très sensibles, très intelligentes qui vont pouvoir recourir à ces stratégies-là inefficaces sur le long terme, efficaces sur le coup, parce que ça va m'empêcher de ressentir un mal plus important encore. C'est pour ça qu'on va parler de bénéfices secondaires ou de facteurs de maintien. C'est-à-dire que si je vais là-dedans, c'est que j'ai quelque chose à gagner. Si je n'avais rien à gagner, je n'irais pas. Par contre, ce n'est pas parce que j'ai quelque chose à gagner, aussi minime soit-il, que je suis véritablement gagnant. Au final, bien sûr que je suis perdant. Je suis perdant parce que je suis un être humain et que mon but, c'est d'être en lien avec les autres. Mais c'est difficile d'être en lien avec les autres. C'est difficile de ne pas être jugé par l'autre. Quand on parle de TCA, souvent, la première peur qu'ont ces personnes, c'est d'être jugé. C'est pour ça que beaucoup de personnes, et effectivement, en tout cas, au sein du groupe de personnes qui viennent consulter à mon cabinet, ce sont souvent des femmes. Et effectivement, beaucoup essaient de le cacher à leurs compagnons qui, eux, disent en tout cas avoir une relation saine à la nourriture. Et ces femmes-là me disent ils ne comprendraient pas. Ils me diraient tout simplement d'arrêter.
J'ai l'impression qu'il y a un manque également d'objectivité de la part de cette personne qui se réfugie dans la boulimie ou autre. De quelle façon est-ce qu'elle peut être amenée à raisonner sur son vrai problème, sur son problème, et à l'exposer pour ensuite peut-être faire simplement la démarche de venir vous voir ou d'en parler, puisque cet isolement quand même se cloisonne au fur et à mesure.
Ce qui va motiver la prise de rendez-vous, c'est souvent les problèmes que ça vient causer dans la vie de la personne. C'est pas tant la boulimie ou l'hyperphagie ou même l'anorexie qui pose problème. Ce qui pose problème à la personne, c'est souvent le fait qu'elle s'aperçoit que ça la coupe des autres. Par exemple, je pense à une jeune femme que je suis qui me disait que lorsqu'elle faisait des crises, elle ne sortait pas de la maison, ne voyait plus personne, ne donnait de nouvelles à personne. Et donc forcément, les liens avec les autres s'étiolent parce que les autres prennent de vos nouvelles quelque temps. Et puis lorsque la chose se reproduit suffisamment souvent et que l'autre en face ne donne pas de justification sensée aux amis, les amis partent, à moins qu'ils ne partent pas. Mais en tout cas, ça laisse forcément une incertitude avec laquelle les autres ne sont pas forcément prêts à dealer. Là où c'est intéressant, c'est que l'EMDR peut aider ces personnes à traiter le symptôme, parce qu'en fait, c'est un symptôme. De la même manière que le mois dernier, lors de notre dernière chronique, nous disions que parler d'infidélité, ce n'est en fait pas tant parler du fait que parler du besoin de reconnaissance, de valorisation, de la peur de la solitude, du besoin de séduire et d'être séduit par d'autres. De la même manière, c'est intéressant de parler du vide, de la solitude, de la crainte de ne pas savoir comment faire face aux différentes émotions qui nous saisissent. C'est de ça qu'il est intéressant de parler au partenaire ou au thérapeute.
Nahiri Boudet, après, j'imagine, bon, tout un cheminement hein, dans la réflexion, après avoir des tas de rencontres avec vous et parler, est-ce qu'on sort de cette dépendance? Est-ce qu'on peut vivre différemment?
Oui et non. Je crois que c'est difficile de se sortir d'une addiction en général. Et le problème avec la nourriture, en tout cas c'est ce que vont dire toutes les personnes qui sont addictes à la nourriture ou au sucre, c'est que malheureusement le sucre déjà se cache partout, on le sait aujourd'hui, même dans les plats préparés salés ou même dans une bonne vieille sauce tomate préparée par la grand-mère. Mais bon, au moins c'est du fait maison. Tout ça pour dire que c'est difficile, on ne peut pas se priver de nourriture, on ne peut pas ne pas manger. Et d'autant plus que la société française s'organise aussi beaucoup autour de la prise des repas. Je pense en famille ou même au simple fait que le restaurant est souvent présenté, les rendez-vous au restaurant sont souvent présentés comme des moyens pour le couple de se retrouver. Et bien sûr, il y a les fameuses fêtes de Noël et du Réveillon qui causent énormément d'angoisse à toutes les personnes atteintes de TCA. Donc, je crois que c'est particulièrement difficile de s'en défaire, mais je reçois au cabinet des personnes qui me disent avoir eu affaire à ces problématiques-là. Elles ne détaillent pas. Dans ces cas-là, lorsqu'il s'agit du passé, elles ne détaillent pas parce qu'elles considèrent que ça relève du passé, que ce n'est plus un problème aujourd'hui. Toutefois, ce dont je m'aperçois souvent, c'est que les problématiques liées aux besoins de reconnaissance et de valorisation, ce qui peut parfois se retrouver dans la dépendance affective, ça pour autant n'est pas traité. Mais au moins, la personne n'est plus sujette à cette prise massive de nourriture qui, au-delà de la prise de poids, est problématique parce que, tout simplement, comme on le disait, la personne s'isole et puis, bon, même si je ne suis pas médecin, je doute que ce soit bon pour le corps, d'avoir un afflux aussi important de sucre et de gras dans un temps court surtout, et même régulièrement.
Est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs pour les TCA? Est-ce qu'on peut prévenir rapidement, si l'on est suffisamment vigilant, peut-être éveillé?
Bien, encore une fois, revenons au couple et à la confiance dont nous parlions dans notre entretien précédent. C'est important que les deux partenaires puissent être attentifs l'un à l'autre et se questionner. Il n'y a rien de méchant en soi à aller grignoter du chocolat blanc dans le placard le soir à minuit parce que je dois rendre un rapport demain et que je suis très stressée. Mais il n'empêche que ça indique déjà que je vais chercher du réconfort dans le sucre pour pouvoir aborder une problématique qui est compliquée. Jusque-là, pas de problème, ça ne veut pas dire que la personne fait une crise de boulimie. Je rappelle que il ne s'agit pas de quelques carrés de chocolat, mais de peut-être trois tablettes, voilà, accompagnées de brioches. Là, on est plutôt dans ce qui relève de la crise de boulimie ou d'hyperphagie. C'est difficile de prévenir. Ce que je vois, en tout cas avec les couples avec lesquels je travaille, c'est qu'il y a un moment où les choses sont révélées. Je pensais à une personne qui me disait qu'elle avait découvert la cachette de sa compagne qui était particulièrement mince et qu'il avait été effaré. Il disait « mais je ne savais même pas que c'était possible d'absorber autant de nourriture, d'autant plus que voilà qu'il trouvait sa compagne très mince et il était étonné qu'elle puisse se livrer, s'autoriser en fait à manger ce type de nourriture qu'elle laborait par ailleurs. Donc il y a ça et il y a aussi au niveau des relations sexuelles. Plusieurs femmes que j'ai reçues à mon cabinet m'ont fait part du fait que parfois elles étaient réticentes à avoir un rapport sexuel après avoir fait une crise de boulimie, du fait de leur ventre qui était particulièrement tendu, gonflé et surtout douloureux. Donc là où ça peut être intéressant pour le partenaire, c'est d'être attentif à ce genre de termes utilisés. J'ai mal au ventre, je ne me sens pas très bien, j'ai trop mangé, etc. Bien sûr, parfois on mange trop et puis on a trop bu de vin rosé au barbecue d'été. Effectivement, on ne se sent pas de se lancer dans une aventure sexuelle, mais lorsque ça revient souvent, lorsque l'inconfort semble palpable, à d'autres moments, même que ces moments intimes, là, ça peut être intéressant de poser des questions. Et puis, il y a bien sûr la question de la prise de poids, malheureusement. Alors, il ne s'agit pas du tout de diaboliser la prise de poids. Vraiment, dans mon activité, je suis bien placée pour savoir que la prise de poids, ça fait partie de la vie et en aucun cas, c'est une justification suffisante pour se couper des liens avec les autres. Il n'empêche que ça conduit beaucoup de personnes, et encore souvent des femmes, à se couper de la possibilité d'être regardées, même avec admiration, par leurs compagnons. Nous arrivons donc au terme de cette chronique mensuelle. Nous nous retrouverons donc le mois prochain pour la chronique suivante qui traitera le sujet de comment résister à ses pulsions sexuelles.